On n'est pas bien?
Come on, baby.
Paisible.
Love me. Please.
La conversation perchée.
J'adore.
Grenouille et le Merlan s'associaient pour proposer, le 31 mars 2009, à la librairie-galerie L'Histoire de l'œil, une rencontre débat sur des questions relatives à la sexualité. Cette rencontre était opérée selon le mode de la conversation perchée, c'est-à-dire sans micro apparent, sinon la perche discrète, maniée par Tony Regnault. Autour de la table, artistes, spectateurs, programmateurs, membres d'associations et un sexothérapeute. Ils se présentent eux-mêmes, tout de suite.
Bonsoir, François Chagnot. Et je suis à Marseille cette semaine pour danser au Merlan. Plusieurs pièces, notamment Pâquerette et aussi des selfies, et pour mener des consultations privées dans un cabinet d'avocats.
Bonjour, je suis Lia Bengolea. Je suis aussi cette semaine au Merlan pour présenter Pâquerette, selfies et donner des ateliers de danse, spirituelle, chamanique, sexuelle, tout ça.
Alors moi je suis Claire Essiardi, je fais partie du planning familial. Les activités du planning, c'est à la fois des activités collectives, effectivement d'éducation à la sexualité pour les jeunes. Et ensuite le planning, c'est aussi une association qui essaie de faire bouger un petit peu les lois et les mentalités dans la mesure du possible sur des questions liées à la sexualité et aux droits des femmes aussi.
Nadège Prunard, donc je suis ici avec Pierre Meunier, donc sur le projet qui s'appelle Sexe à mort. Pour quelques représentations au théâtre du Merlan, voilà.
Hélène Bourren, donc je suis spectatrice associée au théâtre du Merlan et chargée de mission dans un institut de formation en soins infirmiers où je fais de l'éducation à la santé.
Je suis Nathalie et je suis la directrice du Merlan.
Hervé Trémaux, je suis travailleur social, je travaille pour un service d'accompagnement à la vie sociale pour la PAF Handicap et je suis un compagnon de route de l'association Choisir sa vie, pour promouvoir la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Je suis un des animateurs du collectif régional Handicap et Sexualité qui regroupe multiples associations, dont Choisir sa vie, mais bien d'autres.
Bonjour, je suis Joséphine Canu, donc sexothérapeute et psychothérapeute du cabinet Canchel à Marseille, donc dans le 4e arrondissement.
Je suis Élie Poyer, je suis présidente de Choisir sa vie, je fais partie aussi du collectif Handicap, sexualité, intimité, voilà, depuis qu'on a abordé ce problème, on essaie de faire des réunions avec plusieurs associations, essayer de faire avancer les choses au niveau des personnes handicapées qui sont en grande souffrance au niveau sexuel.
Pierre Meunier, donc, à Marseille, invité par le Merlan pour donner à voir et à entendre Sexe à mort. Spectacle autour de la chose, on peut dire.
Bien, le mot est la chose. Je vous propose maintenant qu'on passe à cette conversation et je vous propose qu'on commence par parler de la visibilité du sexe. Cacher ce sexe que je ne saurais voir. Longtemps, la morale a occulté l'image du sexe. Jusqu'à la révolution des mœurs, opérée dans les années 60, 70 et 80. Moment où le sexe est devenu, la sexualité est devenue visible, voire même hyper visible. Aujourd'hui, certains critiquent même cette hyper visibilité. Alors, est-ce que vous partagez ce point de vue que la libération des mœurs, l'hyper visibilité du sexe, peut mener à la banalisation de la sexualité, que le sexe serait devenu aujourd'hui un objet de consommation?
Si on parle de visibilité, on pense à la pub. Déjà, je dirais que ça renvoie quand même au fantasme principalement, c'est-à-dire à titre individuel, donc c'est le champ du possible. Et puis après, en termes d'échange, en termes de réel, on voit qu'il y a un gros clivage entre ce que les gens font de leur sexualité et tout ce qui se passe dans leur imaginaire, et après ce qui se passe dans le réel, c'est-à-dire à la fois ce qu'il faut pour être heureux avec quelqu'un, et puis éventuellement les originalités de certains qui peuvent être effectivement plus ou moins... tolérer, enfin, voilà.
Si je peux me permettre de faire une
d'action. J'ai eu l'occasion de travailler avec des femmes qui ont, des politiciennes qui ont travaillé sur le... qui étaient présentes en 68-70. J'en ai fait un spectacle et on s'est aperçu qu'en fait le fameux slogan « Jouir sans entrave » qui était pour voilà, cette quête aussi d'une liberté collective, c'est-à-dire l'endroit d'une revendication collective, qu'aujourd'hui il avait été déplacé, c'est-à-dire qu'on était maintenant dans une revendication individuelle. Donc je ne sais pas s'il y a une banalisation, mais en tout cas... La libération collective des appétits, des orgasmes qui s'est fait à un moment donné dans une revendication collective, aujourd'hui passe peut-être, moi je ne parlerai pas de banalisation, mais à l'endroit d'un en soi pour soi, de quelque chose de l'ordre du masturbatoire. Et ça, bon, c'est purement politique, hein, donc il ne s'agit pas d'une banalisation, je pense, à proprement parler, mais aussi... la dérive politique des revendications libertaires et aujourd'hui voilà, de comment, avec le temps, l'économie, etc., du déplacement voilà, du collectif à l'individu.
Un auteur récemment, Jean-Claude Guibeau, a fait paraître un ouvrage intitulé « La tyrannie du plaisir » et il évoque même l'idée que la permissivité, c'est-à-dire la remise en cause des tabous qui prévalaient autrefois, serait elle-même devenue un tabou. Alors est-ce que vous pensez que d'abord qu'on est effectivement dans une société permissive, je ne suis pas absolument certain, et est-ce que vous pensez que cette permissivité pourrait même quelque part devenir un obstacle à la réalisation vraiment harmonieuse d'une vie sexuelle ?
Disons qu'il y a un regard, si vous parlez un petit peu sur le plan politique, on va dire encore une fois, entre les projections que font certains, les personnalisations, enfin, donc sur le plan psychologique, si on parle de liberté sexuelle, encore une fois, il y a le pouvoir qui peut-être rentre en ligne de compte, à la fois dans le rapport à l'autre, et puis après, par rapport aux politiciens, il y a effectivement ceux qu'on va dire qui font les lois, ou ceux qui tolèrent, ou qui acceptent, ou qui disent non, pas d'accord. Et je crois qu'en fait, le grand problème, c'est que quand on est face aux frustrations de chacun, eh bien, on se rend compte qu'en termes de permissivité et de liberté, eh bien, certains en fait, n'acceptent pas que les autres puissent se libérer parce qu'eux-mêmes sont très frustrés et ne peuvent pas en fait, se libérer parce que ça renvoie tellement ça les implique beaucoup. Donc à la limite, ils ont le pouvoir et puis ils vont peut-être dire pas d'accord, il faut bien border les choses. Alors après, c'est sûr qu'il faut savoir de quoi on parle hein, en termes de possibilité de liberté sexuelle. Hein, je veux dire, mais je crois qu'il faut peut-être détailler peut-être pour savoir un peu, parce que si on parle de liberté sexuelle, on entend quoi ? Est-ce que c'est le fait de... Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on entend par liberté sexuelle ou permissivité ? Enfin, je veux dire, je sais pas trop.
Qu'est-ce qu'on entend effectivement par permissivité ?
Moi, il me semble que si on parle d'un peu une évolution, on constate qu'il y a eu des changements de normes, hein, c'est-à-dire qu'avant, effectivement, il y avait des normes conjugales, c'était un peu les règles qui étaient instituées, et que maintenant, la complicité sexuelle fait partie des normes, c'est-à-dire que, par exemple, dans un couple, le bonheur sexuel, la rencontre sexuelle fait partie de la norme, c'est-à-dire qu'un couple qui n'a pas de vie sexuelle dite épanouie est considéré comme un couple qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est des choses qui ont changé et qui sont un peu cette espèce de tyrannie dont vous parlez. C'est-à-dire que on peut constater aussi au niveau de l'éducation sexuelle, puisque nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que la question de la sexualité, des rapports sexuels, du plaisir sexuel, c'est devenu une obligation. Et ça s'est beaucoup développé. Alors, est-ce que ça donne plus de satisfaction personnelle, je ne sais pas. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut se permettre qui sont extrêmement agréables et qu'avant, on n'aurait pas revendiqué. Bon, après, c'est vrai que est-ce que ça fait l'accomplissement d'une vie et d'un couple, je ne sais pas. Hein. Ça se pose toujours. Hein. Ouais.
Moi, je pense qu'effectivement, et puis il y a le vrai tabou derrière le sexe, c'est surtout l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, quand en consultation, je reçois des couples jeunes ou moins jeunes, c'est vrai que je leur explique qu'en fait, il y a deux phases pour construire un couple. Il y a la phase passionnelle, donc où effectivement, chacun fait un peu ce qu'il veut, on va dire, sur le plan sexuel. Mais dès que l'amour arrive, eh bien là, il faut expliquer ce qu'est la sexualité du couple, parce qu'ils n'ont pas appris. C'est-à-dire qu'en fait, ils apprennent à comment baiser, comment ce qu'il faut faire, aussi bien les garçons que les filles. Et puis, dès qu'il y a une histoire amoureuse qui se met en place, là, on est désemparé, on ne sait pas faire. Donc, il peut y avoir une période, on va dire, latente, où il y a moins de sexe, mais où les gens se rencontrent réellement sur un autre registre. Et là, après, construisent leur sexualité, mais vraiment, on va dire, de manière... voilà, en connaissant l'autre réellement, en apprenant voilà, la façon dont il est construit.
Vous aussi, garçons et filles, vous connaîtrez un jour sans doute la joie d'aimer.
Mon hamster se prénommait Cunilingus, et croyez-le ou non, mais ce Gus se prenait vraiment pour un homme.
Oh God!
Moteur de la sexualité, c'est quand même le désir. Or, le désir, il y a une part de franchissement des interdits. Dans le désir, il y a quelque chose qui est l'obscur objet du désir et vers lequel on a la tentation d'aller. Si tout est accessible et infiniment accessible, peut-être que le désir s'en ressent et qu'il disparaît. C'est peut-être ça que voulait dire Jean-Claude Guibaud dans son ouvrage.
Et on peut aller même plus loin en parlant de désir. On va dire que celui qui est masculin, on va dire qu'il est connu, il est reconnu. Mais le désir pulsionnel féminin, il n'est pas reconnu. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes sont comme les hommes, hein, je veux dire, à savoir qu'elles peuvent effectivement avoir des envies, avoir une libido très forte, avoir du désir fort pour quelqu'un. Et bien, il y en a certaines qui assument très bien la chose et d'autres qui l'assument moins bien parce qu'encore une fois, c'est culturel, c'est éducatif. Donc, certains hommes, puisqu'on parle de culture, eh bien, n'acceptent pas ça, entrant un petit peu encore un peu machiste peut-être.
Ce que vous dites, c'est que la société est fondée sur la libido masculine.
Oui.
Et qu'au fond, les caractères de la libido féminine n'y apparaissent que très peu,
voilà,
de manière minoritaire.
Voilà, l'homme a un sexe, donc on va dire qu'il vit, il grossit, il se dégonfle, alors donc ça se voit, c'est visuel. Mais chez la femme, sauf que ça existe aussi, et puis ça se passe de la même manière, mais c'est moins visuel, on va dire. Les seins gonflent, effectivement, si elle est excitée, effectivement, son clitoris aussi vit, mais on va dire c'est un puits où c'est un pour beaucoup d'hommes, c'est l'inconnu. Si je mets ma queue, mon sexe dedans, il va disparaître. Et enfin, on va pas faire de la psychanalyse là-dessous, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, voilà, il y a vraiment un gros décalage entre la sexualité des hommes et des femmes. Chez la plupart des gens.
Qu'est-ce que vous en pensez? Cette sexualité visible ou hyper visible, c'est la sexualité masculine et pas féminine.
Mais c'est la morale qui est derrière tout ça aussi. La morale judéo-chrétienne ou musulmane ou de toutes les religions monothéistes dans lesquelles nous sommes inscrits en Europe, on est conditionné par ça.
Donc, ce que je trouve un peu accablant, c'est d'évoquer le désir en termes de transgression. On en vient facilement à l'associer à la transgression des interdits, mais c'est d'une tristesse quand même noire, parce que le désir serait quand même avant tout, je dirais, une force de vie, une puissance de vie qui a envie de se dépenser de la plus belle manière. Et il me semble que c'est là que ça peut aller loin, que ça peut nous emmener vraiment ailleurs, nous agrandir, nous ouvrir, plutôt que de besogner pour tenter de se débarrasser d'un fardeau, quoi.
Moi, ce que je pense, si vous laissez à travers ce débat là que vous organisez, plutôt que de parler de sexualité, de tout ce qui s'est dit, etc., c'est la question du droit des femmes, dont je pense que vous pourrez relativement développer la chose. Le féminin, dans les années 70, on a gagné des choses jusque dans les années 80. On est en pleine régression depuis 85 jusqu'à nos jours. Tous les rapports INSEE ont explosé au niveau des violences qui sont faites aux femmes, que ce soit sous couvert de religion, sous couvert de politique, du fait non pas, moi je dirais, par rapport, pour reprendre le terme que vous utilisiez, d'une permissivité du sexe, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire il y a un rétrécissement des libertés humaines, et les premiers qui en font les frais sont les femmes, les enfants, et sur la définition que donnait Pierre Meunier du désir, le désir c'est autre chose que le sexuel, c'est vraiment ça parle en moi, c'est une essence d'humanité. Donc dans ce qui est montré aujourd'hui, si vous voulez, de représentation sexuelle à la télévision, etc., c'est même pas du sexe, quoi, c'est de la consommation, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, il y a plus de la notion de relation, même dans le sexe c'est perdu, c'est-à-dire les hommes se masturbent dans la femme. Voilà, c'est même plus du sexe, quoi. Alors autant que monsieur aille se branler, revienne, je sais pas. Et pour moi, il y va plus de la question, depuis des générations et des générations, autour de ce problème du sexe, du droit des femmes, de l'évolution, de l'émancipation du féminin, et dans tous les champs. C'est plutôt de ça dont il s'agit, je pense.
Claire,
alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que je sais pas si on arrive à séparer la sexualité des rapports sociaux. Et effectivement, les rapports sociaux entre hommes et femmes, ils ont évolué, ils ont changé. Les hommes ont changé, les hommes, pas dans toutes les pas partout, mais ça a changé. Mais c'est vrai que les rapports sont encore empreints d'une domination du masculin sur le féminin, et donc ça se retrouve aussi dans la sexualité. Donc c'est vrai que quand vous dites cette question du désir qui est cette, si on était des individus indépendants de tout contexte culturel et social, ça serait ce qui existerait. Mais la sexualité, elle existe dans l'enceinte des rapports sociaux, et donc effectivement il continue à y avoir des gens qui sont dans un couple avec des violences, dans des couples avec la femme qui a une dépendance financière vis-à-vis de l'homme avec lequel elle vit, et donc effectivement ça fait que la sexualité, elle a changé, parce qu'effectivement, en même temps, par exemple, l'homosexualité a quand même, en France, même s'il y a toujours une homophobie prégnante, etc., il y a quand même des choses qui évoluent, mais malgré tout, on continue à avoir des situations catastrophiques sur plein de choses. Hein. Donc, on ne peut pas, dans ce cadre-là, avoir une sexualité qui, tout d'un coup, serait merveilleuse et parfaite, alors que tout le reste avance en ramant et parfois même en reculant beaucoup.
J'aimerais revenir sur les années 80 et la fin de cette libération un peu des femmes, qui est aussi en lien avec l'apparition du sida. Et donc, de nouveau, la maladie qui devient la maladie taboue, parce qu'elle est transmise par le sexe. Et donc, forcément, cette idée judéo-chrétienne qui a toujours été, hein, elle revient en force avec ça. Et malheureusement, en tant que... soignant, je l'ai constaté dans les hôpitaux pour avoir soigné des personnes atteintes de sida, et c'est cruel, quoi.
Madame rêve d'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifices, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel, oh ciel.
La morale de cette histoire de morale, c'est donc que le préservatif doit être la solution absolue et totalement sécurisée à ça ces problématiques-là.
Les gens
m'en déplaise
Et je crois que, et à la limite, je crois que c'est pas mal de pouvoir d'obliger finalement les gens à se rencontrer réellement, à vraiment attendre un peu avant de coucher. J'ai envie de dire, enfin. On peut pas se retrouver dans un système.
Ah, bah vous participez alors de cette idée de la tyrannie du plaisir, qu'il faut attendre.
Non, du tout, du tout.
Pas le premier soir.
Non, du tout, je suis pas comme ça du tout. Je suis très, très ouvert, open. Au contraire, je suis pour l'ouverture complètement des sexualités et tout. Non, c'est pas ça. La question, c'est permettre justement d'avoir un dialogue beaucoup plus construit en expliquant aux gens que si on prend les sites internet, les sites de rencontres, les gens, effectivement, vont mettre ce qu'ils veulent. D'ailleurs, certains sont très mal à l'aise ensuite quand ils rencontrent en réel l'autre, parce qu'il a tout dit, ils ont tout dit sur leur fiche, et après ils se retrouvent devant le café. Qu'est-ce qu'on se dit? On n'a plus rien à se dire, quoi. Donc finalement certains sur les sites homo par exemple, comme sur les sites hétéro, il n'y a pas du tout de discrimination, c'est la même chose. Il y a effectivement le même comportement, à savoir la compulsion, la capacité à aller vite à une relation sexuelle non protégée. Donc ce que je dis, c'est que je dis pas ne baisez pas, baisez tant que vous voulez, mais surtout faites en sorte de vous rencontrer de manière à peut-être parler du sujet.
Et comment est-ce que vous expliquez-vous, comme sexothérapeute, des pratiques comme celle du bareback, par exemple, qui consiste volontairement à assumer le risque de mort, d'une relation non protégée?
C'est un suicide inconscient. Alors à la fois, il y a une part de volontaire peut-être, de vouloir jouer avec la mort, et puis après à côté de ça il y en a beaucoup qui n'y croient pas, c'est-à-dire qu'ils pensent que finalement ça sera pas pour eux.
C'est un déni de réalité.
Oui, complètement, un déni, oui, complètement.
Les gens, ils sont divers et variés. Ils n'ont pas tous le même corps, ils n'ont pas tous la même vie. Et force est de constater que dans cette société, il y a les inclus du sexe et ceux qui en sont exclus. Et je voudrais maintenant peut-être donner la parole à nos amis de l'association Handicap et Sexualité, justement.
Oui, alors avant cela, en fait, je voulais intervenir un petit peu suite à tout ce qui s'est dit là. Je ne suis pas du tout un spécialiste de sexualité, ni d'histoire de la sexualité, quoi. Mais votre intervention me fait penser à la définition de la santé sexuelle selon l'Organisation Mondiale de la Santé, qui rattacha à l'idée de santé globale et à l'idée de notion de bien-être physique, psychique et social. Ça me semble intéressant parce que je ne pense pas qu'on puisse analyser la sexualité comme ça.
Mais non, c'est un raccourci,
on ne peut pas. Voilà. Et donc effectivement, on a constaté énormément de changements quand même ces dernières décennies, quoi. Et entre autres avec 68 et après, quoi. Avant 68, effectivement, la sexualité, elle était tellement refoulée, comprimée, compressée, quoi, qu'après, il y a eu une explosion énorme, quoi, une explosion énorme d'énergie. Et évidemment, les premiers à s'en emparer, c'est toujours ceux qui ont le plus de pouvoir dans la société, quoi. Les gens qui veulent faire de l'argent, donc évidemment, l'industrie du sexe s'est développée, quoi. Les gens qui comptent régler nos vies en termes de moralité et tout ça, donc évidemment, l'Église, il a fallu qu'elle s'exprime dessus aussi, quoi. Mais le côté positif des choses, pour moi, quoi, c'est aussi que des personnes qui ne pouvaient pas avant s'exprimer sur le sujet, peuvent aujourd'hui le faire, quoi, et développer des idées là-dessus, quoi. Alors, je pense évidemment aux personnes en situation de handicap.
Est-ce que pour vous, aujourd'hui, le fait que des handicapés aient droit légitimement à une sexualité, c'est encore quelque chose qui est un peu tabou ?
Mais moi, je voulais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure au niveau de la
masculinité.
Oui, parce qu'au niveau des personnes handicapées, c'est pareil. Et au niveau des femmes handicapées, ça c'est, on le voit moins, c'est tabou, les personnes en parlent moins, tandis qu'au niveau des hommes, ça se montre plus, ça se voit plus, et puis ils ont, c'est plutôt physique aussi.
On est beaucoup sur la question des droits, nous, hein, sur le droit à ceci, droit à cela, et du coup la question du droit à la sexualité, ça me pose question le mot. Parce que droit, c'est droit d'âle, droit opposable au logement, etc. Donc, c'est ça qui me pose question. Je pense qu'il y a à s'interroger sur la sexualité de chacun, qui puisse vivre une sexualité, mais droit à la sexualité, qu'est-ce que ça veut dire ? J'aimerais qu'on se pose cette question.
Le problème de droit, je ne vois pas pourquoi des personnes handicapées n'auraient pas le droit d'avoir des rapports sexuels, d'avoir une sexualité, d'avoir du plaisir. Pourquoi le droit ?
C'est la question de la légalité, si vous voulez, qui me pose.
Plutôt parler de tabou de la sexualité.
Voilà, je préférerais qu'on emploie ce terme.
Dans la mesure où, je veux dire, c'est comme des anges, quoi. Ils n'ont pas de sexualité.
Oui, les gens les voient comme ça. Et c'est vrai que, par exemple, il y a un sujet avec un des patients que j'ai eu qui est sur fauteuil, c'était justement de pouvoir imaginer des outillages, de manière à pouvoir permettre de bouger et d'avoir une facilité pour justement prendre des positions différentes et pas être condamné sans arrêt sur un fauteuil ou placé sur un lit comme ça, donc de manière à pouvoir être aidé dans les mouvements. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de budget, il n'y a rien, il n'y a pas de recherche donc sur ce point-là, parce qu'encore on parle d'handicap de ce type-là, mais il y en a tellement d'autres. Donc c'est vrai que voilà, ils ne sont pas entendus, il n'y a pas de recherche, il n'y a rien.
Et c'est aussi, j'imagine, différentes manières d'obtenir du plaisir, même et y compris lorsque l'appareil génital est atteint par la maladie, sans doute des possibilités de pouvoir jouir de son corps d'autres manières.
Oui, il y a des points tellement sensibles dans un corps que c'est pas parce que vous n'aurez pas une relation sexuelle entre guillemets normale que vous n'aurez pas de plaisir. Enfin, moi, j'ai des amis qui étaient tétraplégiques, ils avaient du plaisir autrement. Donc, moi, je ne prends pas mon exemple parce que j'étais mariée, j'ai un enfant de 19 ans, et ma sexualité, bon, elle était... Enfin,
On peut être capable de réinventer la sexualité aussi.
Oui, tout à fait.
Oui, oui, me semble que les handicapés, ce qui se pose, parce que nous, on a 20, alors je ne sais pas si les gens qui sont là en situation de handicap, on va dans des maisons pour handicapés, et là, oui, la question du droit se pose, parce qu'effectivement, les gens, les professionnels qui sont là, ne sont pas forcément d'accord pour que les gens se rendent compte qu'ils aient des chambres communes, et là, oui, c'est en termes de droit. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement le droit d'avoir des rencontres, et qui après se concrétiseront d'une manière ou d'une autre en fonction des possibilités physiques, mais là c'est un terme de droit, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont le droit d'avoir des rencontres, le droit d'avoir un amoureux ou une amoureuse, le droit de se toucher, le droit d'être tout nu ensemble et de faire ce qui... Mais après c'est vrai que, bon, droit à la sexualité, mais voilà, c'était ça que je voulais, c'est au niveau peut-être un peu des institutions, des choses comme ça, que ça doit se poser ces questions-là là, aussi.
Encore, ça se passe, c'est pas très officieux. C'est pas très officiel, mais ça se passe quand même. Il y a des tas de choses qui se passent dans les institutions au niveau des rapports que. Voilà, c'est, mais on ne lit pas. Ça se dit, mais.
Sur l'idée de la sexualité, est-elle un droit ou non, quoi, c'est, évidemment non, je ne pense pas. Sexualité, c'est une dimension à part entière de la vie. Quoi. Après, le droit, il est là pour permettre l'accès ou pour protéger. Quoi. Nous sommes d'accord. Quoi. Donc c'est dans ce sens-là, je pense que certaines personnes emploient le terme « droit à la sexualité ». Ce que je trouve intéressant dans la sexualité des personnes en situation de handicap, effectivement, c'est que ça interroge toutes les représentations qu'on peut avoir sur la sexualité. Quoi.
Il y a la représentation du corps qui est vachement importante. Ne serait-ce que par des caresses, des massages, des massages. On ne parle pas de massage parce que encore, il y a le rôle du kiné là-dedans. Mais
D'un toucher.
D'un toucher, de sensuel, tout ça, c'est vachement important. C'est parce qu'une personne handicapée qui a eu un accident ou qui a eu de nombreuses opérations, elle n'a plus le côté de ressenti de son corps parce qu'il y a tellement de les opérations, les plâtres, la rééducation, les soins. Des fois, on oublie son corps, quoi.
Alors, si le droit à la sexualité peut poser question, peut faire débat, en revanche, le droit à l'accès aux moyens de prévention, le droit à l'accès aux soins, lui, je pense qu'il paraît évident dans l'esprit de tout le monde. Peut-être Claire Ricciardi, aujourd'hui, le planning familial réussit-il à atteindre toutes les populations ? Je pense particulièrement à des populations de migrants qui viennent d'arriver en France. Et comment est-ce que l'accès à la prévention et aux soins leur est facilité? Je pense aussi aux très jeunes. Comment est-ce que l'accès à l'information, pour le coup, mais aussi aux moyens de contraception, leur est facilité? Comment est-ce que vous êtes confrontés quotidiennement au planning familial avec ces difficultés?
Je crois que l'accès aux droits, elle est toujours corrélée à l'autorisation qu'on donne à la sexualité. C'est vrai qu'on parle beaucoup, je ne sais pas si on entend souvent parler, du nombre qui serait hallucinant d'interruptions de grossesse, d'avortement en France. Et on se rend compte que dans les pays où il y a moins d'interruptions de grossesse, où donc ça veut dire que les gens se protègent plus et prennent plus de moyens de prévention, c'est les pays où il y a une situation plus égalitaire au niveau des hommes et des femmes. C'est les pays où, dès la jeunesse, on parle de sexualité et où on a un regard positif sur la sexualité et de la jeunesse et des autres. Hein, et finalement, c'est quelque part la représentation positive qu'on a de la vie sexuelle et des rapports sexuels qui fait qu'on se protège mieux et qu'on fait plus attention à soi-même. Hein, c'est parce qu'on se considère mieux et qu'on considère que ce qu'on fait est bien qu'on prend les moyens de se protéger. C'est un truc de prévention. Donc si vous voulez, dans la jeunesse, c'est ça. Si vous voulez, en France, effectivement, il y a des lois et il y a des droits qui ont avancé petit à petit. Par exemple, l'éducation à la sexualité commence à exister. La prévention, les moyens de contraception sont délivrés gratuitement. Mais en même temps, il y a quand même toujours une peur. de c'est trop tôt, mais à quel âge, etc. Donc, si vous voulez, il y a à la fois un discours un peu ambigu, et du coup, effectivement, il y a et dans toutes les populations, c'est comme ça. C'est-à-dire, si on a peur de la population, si on a un regard négatif sur dire, mais dans ces cultures-là, de toute façon, les hommes, si, ce qui est parfois vrai, ou la femme a une place inférieure, ou de toute façon, ils font 50 enfants, etc. Mais on a un regard négatif, et du coup, on va moins en parler, et du coup, que la personne avec qui éventuellement il y a une action va se sentir comprise dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle vit, et du coup elle pourra ou non adhérer à ce qui est un peu la norme du pays dans lequel elle vit. Et donc c'est ces choses-là que nous on essaie de transporter, c'est un regard positif sur ce que vivent les gens, une rencontre, une écoute de ce qu'ils sont, et à ce moment-là ça pourrait être proposé. Alors c'est vrai qu'après pour atteindre certaines populations c'est un peu plus compliqué. Hein.
Très jeune, on vit dans une grande hypocrisie. Donc il y a cette espèce de double mouvement, à la fois l'impression que on cherche à infantiliser les adolescents jusque très tard, et en même temps les enfants revendiquent l'usage d'habillements, d'accessoires qui font référence à la sexualité de plus en plus tôt. Comment est-ce que vous percevez ce paradoxe ?
Ce qui est de l'ordre, j'ai l'impression de m'entrer dans un débat avec ni pute ni soumise qui soulevait exactement la même question, excusez-moi. Je suis pas forcément, enfin, je suis d'accord avec plein de choses qu'elles ont pu faire, mais pas avec tout. Et qui soulevait exactement la même question que vous. Et à un moment donné, elle disait, oui, nous, on est contre la burqa, etc., machin et tout, mais il est inadmissible que des jeunes femmes, enfin, des jeunes filles d'ailleurs, de 12, 13 ans, mettent des strings noirs sur des pantalons blancs. Et pour moi, c'est la confusion absolue des choses, parce que c'est un endroit de la construction d'adolescents. Aujourd'hui, les modèles qui sont proposés, c'est Britney Spears, etc. Donc, il faut faire attention aussi entre ce qui est de l'ordre de la construction d'adolescents, des modèles qui sont proposés. C'est la société qui sexualise l'adolescent et pas lui. Ce n'est pas l'adolescent qui est lui-même dans une chose ostentatoire, délibérée, mais plutôt les modèles qu'on lui propose, il est plutôt sexualisé, malgré lui-même. Dans les pubs pour enfants, on peut voir maintenant des enfants qui ont 7-8 ans, qui sont habillés comme des macros, quoi. C'est-à-dire avec les chemises ouvertes, chaînes en or, comme dans la chanson de ils sont sexualisés, voilà.
Je suis vraiment d'accord avec ce qu'elle dit, c'est-à-dire que c'est les enfants sont nos enfants. C'est pas eux qui tout d'un coup qui créent le monde. Les enfants arrivent dans ce monde et prennent ce que leur donne le monde, et effectivement, ils prennent cette hypersexualisation, cette hyper caractérisation des caractères masculins et féminins qui finalement sont en train de se renforcer énormément, alors que ça c'était un petit peu mêlé, on va dire, androgynisé à une certaine époque, alors que maintenant ça se renforce sur des rôles extrêmement forts et en particulier sexuels. Donc ce qu'on dit, effectivement, des strings chez les gamines, etc., c'est parce qu'il existe dans les magasins et que les mères, enfin les mères ou les pères, hein, ou les oncles et les tantes, je sais pas qui, achètent ça. Donc on peut pas dire que c'est les enfants qui construisent ça, hein. Ils sont construits par la société dans laquelle ils vivent.
Hein. Mais en même temps, moi je trouve que votre question par rapport à est-ce que les enfants, ils commencent de plus en plus tôt à être sexués, j'ai l'impression que vous dites ça comme avec une espèce d'appréhension ou avec une sensation de danger, comme si le sexe encore était quelque chose à être encore caché à eux jusqu'au le plus tard possible. Avec quelle intention, avec quelle
motivation. Je veux dire, moi, je n'étais pas jeune à l'époque de Britney. En même temps, j'avais une sexualité super développée dans l'imaginaire à 5 ans et dans les possibilités de masturbation. J'étais impressionnée par quelque chose que je ne savais pas que c'était l'ordre sexuel. Et je pense que les enfants, et c'est à eux de décider quand est-ce qu'ils veulent commencer à baisser ou à penser à la sexualité. Et ce n'est pas à nous, à leur place, à dire il faut cacher Britney, il faut cacher les strings, il faut tout cacher pour... parce que nos enfants, qu'est-ce qu'ils allaient devenir quand ils seront grands? Des pervertis, ouais. Des esclaves, des maîtres sexuels. J'espère bien si ça leur plaît, je veux dire.
Moi, je dirais qu'il ne faudrait pas mélanger sexué et sexuel. Hein. Sexué, ouais. Ça veut dire qu'il relève de l'homme et de la, du sexe ou du genre, on va dire. Et là, c'est vrai qu'on peut se poser la question vers où on amène les petits garçons, vers où on amène les petites filles. Après, effectivement, de ne pas brimer la sexualité des petits garçons et des petites filles, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est vrai que ça, il faut faire attention de ne pas devenir, effectivement, que ce sont aussi des petits anges et qui n'ont pas de sexe. Hein.
Alors,
ça,
Non, on ne peut pas manquer de constater qu'aujourd'hui, quand même, il y a une surenchère au niveau des images dans les clips vidéo dont vous parliez, de l'exposition, de l'objectivation toujours insistante du corps de la femme, fesses écartées en tenue, je ne sais pas quoi.
Ça fait 20 ans, mais ça.
Oui, mais ça fait. Mais c'est pour dire une chose, c'est-à-dire que. C'est pour dire une. Mais ça existe encore, il y en a de partout. Madonna, c'était plus intelligent d'ailleurs. Pour dire que les modèles qui sont proposés aujourd'hui aux jeunes, quand on va dans la rue, on voit toujours une nana comme ci, comme ça, etc. Il ne s'agit pas, si vous voulez, d'enlever ça, mais à un moment donné, de questionner quand même la chose, de ce qui est proposé au niveau, aujourd'hui, d'une sexualité par les médias, par les images, de ce qui est renvoyé du corps de la femme, du sexe, en général, c'est pas très intéressant, quoi, honnêtement. Bon, voilà, juste pour dire que, de toute façon, la question du sexuel, elle est éminemment liée au politique, au culturel, et là, c'est complètement bateau ce que je dis, mais c'est... voilà.
François Chilly, oui, ce qui me semble très compliqué, souvent, et ici notamment, mais aussi dans les discours sur la sexualité qu'on a pu évoquer ou qu'on a pu critiquer même dans ce débat, c'est comment, très souvent, on est tenté de... Ces discours-là sont tentés de surplomber l'expérience des autres en disant... Ce serait mieux de faire de cette façon, et même dans ce que vous disiez, ce serait mieux de trouver une vérité, ou ce serait mieux de ne pas regarder. Cette façon d'imaginer que sur la sexualité, on peut avoir un savoir supérieur à la personne qui va pratiquer, trouver son identité, ses pratiques. Ça, et j'ai l'impression que un discours de ce type-là, ou un discours apparemment et évidemment très normatif, au final, il diffère très peu de statut. Ils sont encore en train. D'expliquer à tel ou tel comment il s'agirait de faire, comment il s'agirait de pas faire, qu'est-ce qu'il faudrait regarder, pas regarder, quelle chose serait bien. Et je suis d'accord que c'est très compliqué d'articuler à la fois une analyse critique et en même temps une analyse critique qui soit pas surplombante sur les pratiques des individus, dans la mesure où on peut très bien se nourrir de culture populaire, de culture dite commerciale, et inventer avec ça, tricoter avec ça des pratiques qui sont pas indignes. C'est pas à nous de décider si telle personne agit mal avec ce qu'elle voit. C'est à chaque personne de trouver la façon de faire qui convient. Mais on peut pas dire... pour moi, c'est très important. Et aussi, notamment, pour parler de pièces qu'on fait, nous, ou du travail qu'on fait, que s'il s'agit de travailler avec la sexualité ou avec le corps, qu'en tout cas, il s'agit surtout pas de dire de proposer un modèle d'une bonne façon alternative, artistique, intelligente, branchée, de faire du sexe, mais c'est plutôt de trouver pour nous des pratiques qui permettent d'établir une relation avec déjà les gens avec qui on partage le plateau et le public. Mais que cette tentation normative, elle est hélas très souvent aussi dans les discours analytiques sur la société et aussi dans les discours qui prétendent critiquer d'autres discours normatifs. Donc,
un rebond là-dessus, la société est normative, mais ceux qui la condamnent ou qui la critiquent sont normatifs eux aussi.
Mais pour moi, la posture critique n'est pas forcément normative. En fait, il y a la question de la représentation du sexe, donc sociale, dominante, donc voilà, dans laquelle on baigne tous, dans laquelle baignent nos enfants. Et puis après, il y a la question de la sexualité vécue et du rapport au corps. Donc pour moi, les deux ne sont pas antinomiques. On peut avoir une posture critique sur la manière dont la pub ou la religion interprète la sexualité et elle est d'ailleurs plus ou moins éloignée. C'est-à-dire que pour moi, que ce soit la religion, dans ce que dit le pape, ou la pub, ou des discours politiques dominants, c'est extrêmement éloigné de la représentation intime que je me fais de la sexualité,
qui est lié à un rapport au corps, qui est lié à du sensible, qui est lié à du spirituel. Donc je ne vois pas en quoi la posture du pape ou la pub ont un rapport en effet avec la spiritualité et l'extase. Donc de toute façon, voilà, pour moi on est sur deux registres complètement différents. Et c'est vrai que si posture critique il y a, pour moi c'est quand même à cet endroit-là. C'est pourquoi on s'éloigne autant de ce que quelqu'un d'entre nous a dit tout à l'heure, enfin, a nommé comme l'énergie vitale. Donc si je prends le champ du vivant et de l'énergie vitale, ben, en effet, je ne peux pas me reconnaître dans une pensée dominante, qu'elle soit faite pour vendre, que ça soit les strings des petites filles ou autre chose, parce que là, on n'est pas dans ce qui nous relie au corps et à notre énergie.
Alors, on vient d'aborder comment la société, et notamment la société mercantile, donnait représentation de la sexualité. Je vous propose qu'on aborde maintenant comment l'art apporte aussi une représentation de la sexualité. Une représentation extrêmement abondante dans un certain nombre de domaines artistiques et curieusement extrêmement rare dans d'autres. Force est de constater que si la sexualité est très présente au cinéma, qu'elle est très présente dans la littérature, qu'elle est très présente dans les arts visuels, elle se fait beaucoup plus discrète dans le domaine de ce qu'on appelle les arts vivants, sur les plateaux de danse ou de théâtre. Alors je voudrais peut-être proposer aux artistes qui sont parmi nous aujourd'hui de nous proposer peut-être des pistes pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que le spectacle a tant de mal à aborder cette question de la représentation du sexe.
Il y a juste encore une chose sur déjà la distinction entre les représentations de la société dite mercantile, mauvaise, je ne sais pas quoi.
La publicité, ce qu'on a évoqué.
En un sens, si nous on fait des pièces, à nouveau c'est un peu le même point de vue, mais pour moi c'est très important de me dire qu'on n'est pas en train de proposer la belle façon de faire contre des mauvaises pratiques qui seraient les pratiques de... Et qu'il y a même des... Comment dire? Les choses sont très complexes et qu'il y a même des choses qui effectivement sont animées par une énergie de domination ou d'économie, etc. Mais qui produisent aussi des formes qui nous habitent. Et pour nous, en tout cas dans notre pratique artistique, on est aussi avide d'inventions extraordinaires que de pratiques très communes. C'est très important de se dire que les pièces qu'on fait ne seraient pas dans une espèce de sphère isolée, de
pas reste que concrètement, Pâquerette, Siegfried ou Sexamore sont des pièces relativement rares à aborder ce
registre. Oui, c'est une autre question, mais c'est juste se dire que pour moi, c'est important de ne pas disjoindre les différents lieux où la sexualité se pratique, se représente, parce que sinon c'est très ennuyeux de se dire qu'on fait des pièces d'art sur la sexualité et que du coup... Elles sont coupées du monde et si possible meilleures que ce qu'on dirait, ce qu'on fait.
Pierre ?
Oui, il s'agit plutôt, là, en se lançant dans un projet pareil, de tenter de rendre compte d'un questionnement. Enfin, je dirais d'un questionnement qui est d'abord le mien au départ. Par rapport aux énigmes, je ne sais pas, à l'attraction, à la répulsion, par rapport à au trouble et à la nature de la perte de repères ou de la désorientation plus ou moins salutaire, espérée, bien heureuse, dans laquelle on peut se retrouver quand on rencontre l'autre sexuellement. De tenter de réveiller l'imaginaire autour de ça, parce que on parlait tout à l'heure des représentations du sexe qui abondent et qui vont toutes dans le même sens quand même d'une réduction c'est le commerce de la viande quoi, c'est quand même beaucoup et uniquement, en tout cas chez nous en Occident là, le commerce de la viande et c'est tellement rarement quelque chose qui laisserait entendre que ça peut être aussi un rapport à l'espace, un rapport au temps qui change et qui nous grandisse, qui nous désaltère, enfin qui nous et dont on a sacrément besoin quoi. Et je pensais quand je réfléchissais un peu à la genèse là de ce projet justement aux jeunes quoi, qui sont abreuvés de ces images des tables. Et où vont-ils... Enfin, il faut espérer que dans l'expérience personnelle, bien sûr, il faut faire confiance à l'humain, je dirais, dans ses expériences à lui. Mais néanmoins, on ne peut pas nier le poids des modèles, quoi. Et surtout, la réduction que ça opère, je pense, dans le rapport qu'on peut imaginer entre soi et l'autre et le sexe, quoi. Parce qu'on en vient à se comparer, quoi, à se comparer dans un rapport de performance, de pouvoir, pas pouvoir. Et il n'y a rien qui rend plus impuissant que ça. Enfin...
Moi, je pense que le corps beau et bien foutu et sont touchants, racontent une histoire à eux, et pareil que le corps ancien et peut-être pas capable de tout faire, mais je veux dire, quand on a un tel corps et peut-être on performe dans une boîte de striptease aux Champs-Élysées, on est très excité de devenir l'objet de désir et un espèce de dépositaire des fantasmes de plusieurs personnes. Et on ne peut pas nier la puissance que ça produit dans l'imaginaire des gens qui travaillent comme objet de désir et les condamner juste parce qu'ils sont bien foutus et parce qu'ils ressemblent aux gens qui sont dans les clips. Je veux dire, les gens qui sont dans les clips, ils sont des choses aussi, et ils prennent des drogues parce qu'ils sont épuisés de leur célébrité, ils souffrent, ils ont un esprit, etc. Je veux dire, ils ont des tortures que peut-être on croit qu'il n'y a pas parce qu'on voit une perfection, une blondeur, une beauté à la mode, etc. C'est l'époque qui les condamne. Peut-être c'est un peu ridicule en même temps. Pour Pâquerette, par exemple, pour cette piste qu'on a fait sur. Qu'on a commencé à explorer sur la sexualité, c'est très simple. On avait envie de répéter et d'avoir des expériences sexuelles en même temps sans exclure. Par exemple, il y a une certaine répétition qu'on s'ennuie, qu'on se fait chier et qu'on pense au sexe, on pense à baiser avec notre copain. Et là, on avait la possibilité, ou avec faire une partout, je sais pas quoi, là, on avait la possibilité d'explorer des nouvelles sensations et d'inventer en même temps des formes. D'essayer voir. Après, il y a des autres idées qui arrivent, comme du Pierre, les temps, l'espace, des choses troublantes, des choses qui étalent des images d'une façon très inattendue et qu'ils ont aussi un poids parce qu'on est dans une surexposition qui n'est pas habituée, c'est assez singulier, cet rapport qu'on établit avec le public. C'est vrai que ça vient d'un désir assez basique, d'avoir un droit, comme tu disais. Parce que le droit, finalement, de la sexe, c'est pas de baiser ou de pas baiser, c'est de montrer ou pas montrer. Parce que Marcela Yacoub, qui vient la samedi à donner une conférence, elle explique très bien dans son livre « Par les trous et la serrure » l'histoire de la pudeur et comment, depuis le tout début de la création de la loi 303, on dit qu'on peut baiser sa épouse par tous les trous qu'on veut, si c'est pas dans la rue, par exemple. Du coup, comment on peut... Et apprendre les expériences de la visibilité d'un public, d'un théâtre, etc. Qui ne sait pas du tout la distance de l'écran, qui a un autre temps et un autre espace qui nous diffère.
Alors je vous propose qu'on arrive bientôt au terme de cette discussion.
Je voulais dire une chose par rapport à l'énoncé que vous avez fait, qu'il y a très peu de représentations autour du thème de la sexualité au théâtre. C'est faux. Tout est sexuel au théâtre. Le théâtre est un acte sexuel en soi, de rencontre entre déjà spectateurs, acteurs, etc., pour être basique. Et ontologiquement, c'est la convulsion de Dionysos et d'Apollon. La tragédie grecque ne parle que de sexualité, que de politique. Les spectacles ne parlent que de ça.
C'est voilà. Le mot et la chose.
Et juste, je voulais dire un petit mot quand même, parce que je travaille avec Pierre sur ce projet. Ce que j'ai trouvé de formidable dans ce projet où j'accompagne Pierre, c'est comment justement on sort de... voilà, de l'ambiance actuelle politique autour de ce sujet précisément, par le biais donc de tout un tas de machines industrielles et d'objets plus inattendus les uns que les autres que Pierre amène sur ce plateau pour délivrer l'imaginaire voilà, sexuel et des représentations qu'on peut avoir aujourd'hui pour le transporter à l'endroit du mythe et de cette origine du théâtre qui est, comme disait Nietzsche, la convulsion d'Apollon et Dionysos.
Une convulsion d'Apollon et de Dionysos qui a dû être bien jouissive. L'histoire en a gardé quelques traces. On a évidemment, au cours de cette discussion, évité toute distinction entre
des formes ou des pratiques différentes de la sexualité. Il n'était pas question de mettre dans une boîte les hétéros et dans une autre boîte les homos, et bien au contraire, mais plutôt d'avoir un regard assez large. Mais quand même, peut-être pour conclure, est-ce qu'il vous semble que la libido est quelque chose d'extrêmement individuel et qui est vraiment la marque d'une identité personnelle? Ou bien est-ce que cette libido peut être fondatrice d'une communauté? Alors peut-être, qu'est-ce que vous en pensez?
Les deux, mon capitaine.
C'est tout seul ou à plusieurs?
J'espère bien les deux.
C'est ça qui est formidable. Ouais. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle tant de sexualité, parce que c'est une articulation aussi assez passionnante entre une expérience qui est effectivement très individuelle parce qu'elle concerne notre corps et des sensations qu'il est toujours difficile de nommer pour les autres, mais qu'en même temps c'est une activité, on l'a vu, hyper sociale, hyper liée avec le monde, la culture, la communauté, etc. Et qui donc a la vocation aussi à créer des sociabilités particulières et des affinités ou des difficultés liées effectivement aux dominations sociales.
On n'est pas bien ?
Non, bébé.
Paisible.
Love me. Please.
On serait bon quand c'est un.
Love me.
J'adore.
Vous écoutiez Une conversation perchée, enregistrée le 31 mars 2009 à la librairie L'Histoire de l'œil, au cours de laquelle vous avez pu entendre Claire Ricciardi, du planning familial, Yvette Boyer et Hervé Trémaux, du collectif Handicap et Sexualité, José-Philippe Canu, sexothérapeute, Hélène Bourren, spectatrice associée du Merlan, Pierre Meunier et Nadège Prumiard, auteur et interprète du spectacle Sexe à mort, Cécilia Bengolea et François Chéniaud, auteur et interprète des spectacles Sylphide et Pâquerette, ainsi que Nathalie Marteau, directrice du Merlan. Thank you.